Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des électeurs qui passeront de l'extrême gauche à l'extrême droite, ceux de Jean-Luc Mélenchon pour parti, décidés à voter Le Pen au second tour, on va les entendre. Le vote par-delà ses convictions, Marine Le Pen comme Emmanuel Macron comptent sur cet électorat qui ne les a pas choisis au premier tour, à gauche toutes. Inflexion sur les retraites chez l'un, obsession du pouvoir d'achat chez l'autre. Et c'est l'une des finalistes du second tour qui sera ce matin l'invité de notre matinale spéciale, Nicolas.
Oui, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, pour le retour de nos matinales spéciales Élysée 2022, les candidats face au 7-9. C'est de 8h20 à 9h30. Posez toutes vos questions à Marine Le Pen dès maintenant au 01 45 24 7000. Vous aurez largement la parole tout à l'heure. Emmanuel Macron, le deuxième candidat, sera à notre micro, lui, la semaine prochaine.
Il témoigne d'un massacre, retour sur les événements de Moura au Mali. À la fin du mois dernier, les mercenaires du groupe Wagner sont accusés. En Ukraine, c'est le branle-bas de combat avant l'offensive imminente et massive des Russes sur le Donbass. Dans ce journal aussi, Disneyland Paris a 30 ans et de très belles dents, et Gaudi, architecte de génie, s'expose au musée d'Orsay.
France Inter.
7 700 000 électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pour qui vont-ils voter au second tour? Ce sera l'une des clés du scrutin. Pas une voix pour Marine Le Pen, a répété leur candidat arrivé troisième dimanche soir. Pourtant, certains le mettront dans l'urne. Ce bulletin Le Pen, un tiers, selon les sondages, le sondage Ipsos pour France Inter. Comme à Gentilly, dans le Val-de-Marne, où s'est rendu Farida Noir. 44% de vote Mélenchon au premier tour.
Je voterai Le Pen.
Son choix est scellé.
Je voterai Marine Le Pen. Je suis carrément sérieux.
Stéphane donnera sa voix à la candidate RN et ne suivra donc pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a choisi au premier tour et qui exhorte à ne pas voter Marine Le Pen. Pour le trentenaire, impossible de voter Macron au second tour.
Le mec, je me suis battu contre lui pendant 5 piges, j'allais dans les manifestations, j'allais partout contre lui. Bah non, je ne peux pas voter pour lui. Il faut du changement dans ce pays et si, bah, peut-être que ça sera Marine Le Pen, pourquoi pas. Parce qu'au final, on l'a essayé avec Macron il y a 5 ans. Moi, j'ai voté pour lui il y a 5 ans pour contrer le Front National. Il a aidé que les classes un petit peu plus aisées. Donc je préfère essayer quelque chose d'autre qu'essayer quelque chose où je sais où est-ce que je vais en fait.
Dans l'esprit de Mamadou,
ça va être très compliqué.
C'est plutôt confus. Vous ne savez pas encore ?
Non, je pense que c'est Macron qui va passer.
Sans toi ou avec toi ?
Avec moi.
Donc vous voterez Macron ?
Oh, c'est pas sûr, peut-être blanc.
Peut-être blanc aussi pour Rémi, qui hésite aussi avec l'abstention. En tout cas, pour ce jeune mélenchoniste, ce ne sera, c'est sûr, ni Macron ni Le Pen. Et il ne veut pas entendre parler de faire barrage.
On va arrêter de penser comme les années précédentes en se disant on va voter le moins pire du pire. Je vais arrêter de penser comme ça parce que finalement, ça sert à rien.
Rémi qui regrette que les divisions au sein des partis aient, selon lui, mené à la défaite de son candidat.
Et chez les gagnants, on est donc en quête de ces électeurs de gauche. Comment les convaincre au second tour? Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans deux villes de l'Est qui ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche, Strasbourg et Mulhouse. Après une concession de taille hier sur son programme, la retraite, pourquoi pas à 64 ans finalement au lieu de 65, la réforme s'arrêterait en 2027. Si les Français sont trop angoissés, il faut bouger et pourquoi pas, là aussi, soumettre le projet au référendum.
Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. D'accord. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Là, notre discussion, elle me permet de clarifier des choses. Et tous les échanges que j'ai eus ces derniers jours avec nos compatriotes me montrent que ces clarifications sont nécessaires parce qu'on avait retenu qu'un chiffre magique qui n'arrive pas avant 2030, premier mois.
Et chiffre magique, ça pourrait être 64 ou ça, c'est forcément 65?
Mais ça dépend quel horizon on se donne. Si on se dit, on n'est pas prêt à faire une réforme pour 2030, on veut le faire plus tôt. Si c'est ce qui peut bâtir un compromis, un consensus avec des femmes et des hommes pour qui c'est important. Vous savez, moi, je veux rassembler. J'ouvre la porte très clairement.
Emmanuel Macron interrogé hier soir sur BFM TV, la gauche et les classes populaires dans le viseur du candidat, c'est bien la stratégie de cet entre-deux-tours. Alors le Front Républicain, c'est bien, mais attention au soutien trop encombrant, comme celui du MEDEF hier soir. Maxence Lambrecq, c'est l'une des angoisses du camp Macron.
Sans surprise, le MEDEF a appelé hier soir à voter pour Emmanuel Macron. Il considère à l'unanimité, je cite, que son programme est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi. J'espère que ce communiqué passera inaperçu, glisse un député. Macron, candidat du MEDEF, slogan facile pour Marine Le Pen. Ce qui me fait peur, c'est le soutien de Sarkozy, lâche un de ses collègues. Faut faire gaffe à l'effet répulsif qu'il peut susciter à gauche, ajoute une ministre. Il a intérêt à s'exprimer discrètement, admet un membre du gouvernement, car En 2017, on venait de la gauche, on avait besoin d'assurance de droite. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La Macronie préférerait donc un tweet de Nicolas Sarkozy au dernier moment qu'un JT de 20h en majesté. Le Front Républicain est à double tranchant, estime un pilier du parti. C'est un peu le baiser de Judas, le système qui adoube son candidat et en face, c'est un boulevard pour le RN. Dans les Hauts-de-France, hier, comme en Alsace aujourd'hui, Emmanuel Macron veut apparaître seul face aux Français. Ni ministre, ni soutien à ses côtés, le plus loin possible des affaires partisanes.
Et face au président candidat, Marine Le Pen ne semble pas bouger d'un iota. Déplacement dans une ferme de Lyon hier, le thème de l'inflation et du pouvoir d'achat en bandoulière. Pas de prise de risque pour cette deuxième campagne. Élodie Forêt, Marine Le Pen continue sur sa lancée.
Pourquoi tout changer quand ça marche, sourit un cadre du RN. Au premier tour, Marine Le Pen semble effectivement avoir trouvé sa martingale, une campagne de l'ultra-proximité, reléguant les sujets clivants comme l'immigration et misant sur le pouvoir d'achat pour mobiliser les Français. Au second tour, donc, on prend les mêmes thèmes et on recommence, assume la candidate.
Je pense que les thèmes qui aujourd'hui sont des préoccupations des Français n'ont pas changé entre hier soir et aujourd'hui.
Poursuivre sa campagne sans se laisser vampiriser, traumatisée par 2017 et l'alliance dans l'entre-deux-tours avec Nicolas Dupont-Aignan qui négocie l'abandon du Frexit, Marine Le Pen n'est aujourd'hui prête à aucune concession envers ceux qui finalement la soutiennent. Éric Zemmour en tête.
Je ne négocie rien, mon projet est cohérent. Donc je me réjouis à chaque fois que quelqu'un exprime le souhait de voter pour moi. Mais encore une fois, la Ve République veut que la présidentielle soit la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple.
Tenir Éric Zemmour à distance pour éviter les interférences, couper court aussi à l'image du tandem d'extrême droite mis en avant par la Macronie. Surtout ne pas effrayer les électeurs de gauche, alors qu'il faudra des reports de tous bords pour espérer une majorité.
Des électeurs que Marine Le Pen tentera de séduire à Vernon dans l'heure aujourd'hui. Conférence de presse sur l'amélioration du fonctionnement démocratique du pays, après son passage ici même dans la matinale spéciale de France Inter tout à l'heure.
C'est dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Il est 8h07, c'est un massacre qui se confirme de jour en jour, Florence.
À Moura, au Mali, à la fin du mois de mars, 2 à 300 personnes abattues au nom de la lutte anti-djihadiste. La Russie, en fin de semaine dernière, a bloqué à l'ONU une demande d'enquête indépendante, alors que les mercenaires du groupe Wagner sont soupçonnés d'avoir participé à cette tuerie de masse avec des militaires maliens. Réfugiés à Bamako, deux survivants du massacre racontent au micro de Manon Laplace pour France Inter.
À l'arrivée des hélicoptères, Ali rentrait de brousse. Caché dans sa maison, il est embarqué avec des dizaines d'hommes.
Nous emmenés au bord de la route pendant 5 jours, sans dormir, on nous donnait très peu d'eau. Tous ceux qui avaient peur, ils les mettaient sur le côté et les tuaient.
Trop de morts pour tenir un décompte, dit-il, les yeux rivés dans le vide. Il assure en avoir enterré une centaine.
On a mis 50 corps dans une fosse, 60 dans une autre. On les mettait dans des nattes et on les portait. C'était affreux. Certaines de leurs têtes étaient en morceaux. C'était très dur.
Adama aussi se rappelle les hélicoptères, les tirs et les exécutions sommaires. Aux côtés des soldats maliens, des militaires blancs, qui, selon plusieurs témoins, ne parlaient pas français.
D'abord, il y a eu deux hélicoptères. Ils ne transportaient que des blancs. Ce sont eux qui ont fait le plus de dégâts, beaucoup de dégâts. Dans les deux hélicoptères suivants, les soldats maliens sont arrivés, mélangés avec les blancs.
S'ils ne désignent pas nommément le groupe Wagner, les survivants le disent, il s'agissait sans doute de Russes. Les autorités maliennes, elles, réfutent toujours la présence de mercenaires russes et parlent d'instructeurs. Bamako, Manon Laplace, France Inter.
Ils opéraient sous couvert de leur ambassade. 6 espions russes démasqués par le contre-espionnage français au terme d'une longue enquête. Le Quai d'Orsay a annoncé leur expulsion hier soir. En Ukraine, des armes chimiques ont-elles été utilisées à Mariupol? L'accusation portée par une parlementaire ukrainienne. Le Royaume-Uni annonce des investigations urgentes pour vérifier ces renseignements. Mariupol qui s'effondre. Les autorités reconnaissent qu'elles sont sur le point de perdre la ville. Alors que le Donbass s'attend à une offensive massive et imminente des Russes, l'Ukraine réclame des armes. Éric Biegala et prépare ses lignes de défense.
Pour se préparer à l'offensive et sans dévoiler position ou plan de bataille, les Ukrainiens ont commencé par évacuer des deux régions du Donbass le plus de civils possible. Actuellement, ils minent systématiquement les axes de progression que l'armée de Moscou pourrait emprunter dans la région. Et surtout, ils engrangent armes et munitions que peuvent leur fournir les Occidentaux, y compris les armements les plus lourds. Hier, le Pentagone révélait que le train des convois d'armement vers l'Ukraine était quasi continu avec 8 à 10 vols de gros porteurs tous les jours en provenance des États-Unis. La Slovaquie vient de livrer à l'Ukraine au moins une batterie de missiles solaires et plusieurs dizaines de missiles pour l'équiper. La République tchèque vient de fournir à l'Ukraine des chars de combat T-72 et l'Allemagne pourrait même livrer, disait hier le constructeur Rheinmetall, une cinquantaine de tanks Léopard. Cela pourrait très sérieusement renforcer les défenses ukrainiennes pour la bataille qui s'annonce. L'Ukraine a perdu au moins une centaine de chars depuis le début de la guerre.
Et puis il ne faut pas se faire d'illusions. Conclusion du chancelier autrichien, premier dirigeant européen reçu par Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive, c'était hier. Il se dit pessimiste face à la logique de guerre du président russe. Une guerre qui pourrait effacer la moitié de la croissance mondiale cette année et mener à une désintégration de l'économie. C'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui alerte. La Russie et l'Ukraine fournissant massivement, en plus des céréales, des composants indispensables à l'industrie automobile et aux semi-conducteurs. Et ça n'est pas tout. La Russie était aussi censée livrer des pièces stratégiques en France, à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. On parle du grand projet ITER de fusion nucléaire qui regroupe l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Corée et la Russie. Coopération mondiale menacée, elle aussi, par la guerre, Célia Kiré.
C'est un chantier hors norme. Nous sommes devant un cylindre de 30 mètres de profondeur, 30 mètres de diamètre. La fusion de l'hydrogène aura lieu ici, dans le cœur du réacteur, grâce à un aimant supraconducteur, le plus puissant du monde. Robert Arnoux est l'un des porte-parole d'ITER.
Dans cet espace, on va avoir accès, pour la première fois, à un état de la matière qui n'existe qu'au cœur des étoiles.
La fusion nucléaire produit 4 fois plus d'énergie que la fission des centrales d'aujourd'hui. Elle présente de nombreux avantages.
Là où il vous faut 6,5 millions de tonnes de charbon pour produire 1 gigawatt. Ici, vous avez besoin de 350 kg d'hydrogène. Autre énorme atout, c'est que la fusion de l'hydrogène ne produit pas de déchets de haute activité à vie longue. Ce sont des déchets qu'on doit gérer à échelle de centaines de milliers d'années.
Mais il manque encore des pièces au puzzle et certaines doivent arriver de Russie dans les mois qui viennent. Ils seront déterminants.
Si les transports routiers fonctionnent, elles arrivent en temps et heure. En revanche, on a une très grosse pièce qui, elle, doit voyager par la mer. Notre défi à nous, c'est faire en sorte de surmonter ce qui se passe en ce moment.
En principe, ITER devrait atteindre sa pleine puissance en 2035, si les conditions géopolitiques le permettent. La fusion nucléaire pourrait être une solution énergétique pour la seconde moitié du siècle, pas avant.
Célia Kiré, là, ça n'est pas encore l'effet guerre en Ukraine, mais les défaillances d'entreprises repartent à la hausse. 10 000 sociétés en redressement ou en liquidation depuis janvier, c'est 35% de plus que l'an dernier, même si ça reste inférieur au niveau d'avant Covid. Voici maintenant une grosse entreprise qui ne connaît pas la crise. C'est Disneyland Paris qui fête aujourd'hui ses 30 ans à Marne-la-Vallée. À l'époque, on l'appelait Euro Disney. Et on n'imaginait pas, Philippe Lefebvre, que l'arrivée de Mickey serait un tel succès.
Il faut dire que dans le monde de l'économie ainsi que dans celui de la culture, personne ne croyait à l'avenir du parc américain implanté sur les terres agricoles de Seine-et-Marne. On parlait même de Tchernobyl culturel. Mais 30 ans plus tard, force est de constater que Mickey a transformé le blé en or. C'est ce qu'explique Christophe Giral, le directeur immobilier d'Euro Disneyland Associé.
Il y a un formidable élan touristique, des retombées économiques directes et indirectes induites par l'entreprise qui sont majeures. Plus de 84,5 milliards d'euros de valeur ajoutée à l'économie française. Et plus de 6% des devises internationales collectées par notre entreprise.
Et si à l'époque il a été reproché à l'État français d'avoir dépensé sans compter pour attirer les Américains en créant notamment la plus grande gare TGV de France, pour Thierry Séry, le président de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, cela a été une très bonne affaire.
L'investissement de l'État est pour 1 euro et un taux de rentabilité à 10 euros.
Et aujourd'hui, avec 15 000 salariés, le parc est le plus gros employeur sur un seul site en France. Un chiffre qui devrait d'ailleurs augmenter dans les prochains mois, car Guillaume Dacuna, le vice-président en charge des ressources humaines, recrute partout en Europe.
Plus de 2000 CDI, 35 heures. D'ici les prochains mois, on aura atteint donc un peu plus de 17 500 salariés.
Un dynamisme qui attire les entreprises. 6300 se sont installés depuis 30 ans, non loin du château de la Belle au Bois Dormant.
Et moins féerique que le château de la Belle au Bois Dormant, la Sagrada Familia, improbable et sombre cathédrale barcelonaise, toujours en chantier. C'est l'œuvre la plus célèbre de l'architecte Gaudi, auquel le musée d'Orsay Français consacre une grande exposition pour mieux comprendre, Isabelle Pasquier, les coulisses de ces créations fascinantes.
L'exposition nous fait entrer dans l'extraordinaire atelier de Gaudi qu'il avait carrément installé dans la Sagrada Familia, le chef-d'œuvre de sa vie. Alors on découvre ses méthodes de travail peu académiques, des moulages de corps qu'il fabrique à partir de photos de modèles qu'il prend avec des miroirs pour les avoir sous tous les angles. Gaudi se lance des défis, construire des voûtes célestes sans contrefort, et il les réalise grâce à des maquettes inversées pour les calculs de charge. Inspiré par l'orientalisme, Gaudi invente son art nouveau avec une architecture greffée sur la nature. Isabelle Morin-Loutrel, co-commissaire de l'exposition.
L'arbre, pour lui, est vraiment un repère, une référence pour comprendre tout ce qui relève de l'équilibre, de la stabilité et de la statique. Et puis, au-delà de ça, il a une imagination extrêmement importante pour le côté plastique, en fait. C'est un plasticien, hein. On peut dire que c'est un architecte plasticien, c'est-à-dire qui est rationnel parce qu'il conçoit une architecture utile, fonctionnelle, et en même temps, cette architecture, il lui donne des formes qui la rendent décorative et absolument pas académique. D'ailleurs, quand il est sorti de l'école d'architecture, le directeur, en lui donnant son diplôme, s'est exprimé, dit-on, en disant qu'il avait affaire soit à un génie, soit à un fou.
Pas étonnant, Salvador Dali était complètement fou de l'architecture de Gaudi.
Voilà, et si on ne peut pas partir en vacances à Barcelone, on peut toujours aller au musée d'Orsay voir cette exposition Gaudi jusqu'au 17 juillet.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobile, utilitaire, poids lourd, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Stéphanie, le ciel se perturbe doucement par la façade atlantique.
C'est une perturbation pluvieuse qui fait du surplace aujourd'hui entre l'Aquitaine et la Normandie. Le ciel est bien encombré pour la journée. Ce temps peut tourner à l'orage sur l'Aquitaine dans l'après-midi, laissant un peu de répit à la pointe bretonne. Ailleurs, le ciel est voilé, plus lumineux au réveil sur le nord-est, mais encore bien chargé sur le Languedoc-Roussillon, avec quelques averses possibles poussées par un vent de sud-est qui souffle à 70-80 km/h. Le vent d'automne est lui aussi encore présent. Il s'est renforcé cette nuit sur l'Occitanie, stabilisé à 100-110 km/h au réveil. Il va mollir dans la journée à 90-100 km/h. Météo France maintient le Tarn et la Haute-Garonne en vigilance orange. Côté température, c'est la douceur qui domine dès le réveil avec 4 à 6 degrés dans le nord-est, 6 à 12 ailleurs. Les maximales grimpent bien, elles atteignent 15 à 17 degrés dans le nord-ouest, 18 à 21 ailleurs. Il fera 15 degrés à Bain-de-Bretagne, 18 à Toulouse et Boulogne-sur-Mer, 21 à Nîmes, Reims et Paris, 24 degrés à Auxerre.
Merci Stéphanie. France Inter, 8h17.
Le 7-9. Sur France Inter.
Géopolitique, Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez, Pierre, de la chute imminente de la ville de Mariupol en Ukraine.
L'Ukraine est en passe de subir son plus grand revers militaire depuis le début de l'invasion russe le 24 février. La prise du port de Mariupol est d'ores et déjà annoncée par les séparatistes pro-russes et elle est considérée comme imminente et inévitable par le gouvernement ukrainien. Hier matin, les derniers défenseurs ukrainiens, retranchés dans une zone industrielle après plus d'un mois de siège et de combat, ont lancé sur les réseaux sociaux un message en forme d'adieu. « Nous faisons tout ce qui est possible et impossible », écrivent ces hommes de la 36e brigade ukrainienne. « Ce sera la mort pour certains et la captivité pour d'autres », ajoute-t-il. Ces soldats indiquent qu'il manque de munitions, de nourriture et d'eau et que les approvisionnements promis ne sont pas arrivés. « Ne dites pas de mal des Marines », conclut-il, « nous sommes pour toujours fidèles ». Ce message désespéré confirme le pessimisme exprimé hier par le président ukrainien Zelensky, qui a accusé la Russie d'avoir détruit Mariupol. C'est selon tous les témoignages un désastre humanitaire avec des milliers de morts civiles, dont des enfants, une ville en grande partie détruite à l'issue d'un siège moyenâgeux.
Et quel est l'impact, Pierre, de cette défaite ?
Mariupol a une dimension symbolique autant que stratégique. En 2014, lorsqu'a éclaté la guerre au Donbass, les séparatistes pro-russes ont pris la ville, aussitôt reprise par l'armée ukrainienne. Dès le 24 février, Mariupol a été une cible prioritaire. C'est là en particulier qu'ont été envoyés les combattants tchétchènes. Après l'échec de l'offensive autour de Kiev, qui s'est achevée avec l'évacuation des troupes russes, il fallait à Poutine un premier succès. Mariupol était toute désignée. Le contrôle de ce port industriel majeur sur la mer d'Azov est la clé de la continuité territoriale que veut réaliser la Russie entre les deux républiques séparatistes du Donbass et la Crimée annexée en 2014. La prise de Mariupol ouvre la voie à cette nouvelle phase de la guerre. l'offensive russe pour capturer les parties du Donbass qui échappent encore à son contrôle.
Et l'Ukraine, Pierre, a-t-elle les moyens de résister ?
À Mariupol, Nicolas, les forces ukrainiennes n'ont visiblement pas été en état de sauver leurs camarades assiégés. L'enjeu pour elles sera désormais d'éviter la manœuvre d'encerclement que tente d'opérer l'armée russe. L'Ukraine a environ le quart de son armée dans cette zone, les unités les mieux formées. C'est donc la bataille décisive de cette guerre qui va s'engager, avec une armée russe plus proche de ses bases arrières, renforcée par les unités évacuées de la région de Kiev et acheminée via la Biélorussie. Vladimir Poutine espère atteindre son objectif d'amputer l'Ukraine de ses plaines fertiles et de son accès à la mer d'Azov avant la célébration de la victoire sur le nazisme le 9 mai. Hier, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a rejeté tout appel à cesser le feu. La Russie ira jusqu'au bout et la prise de Mariupol en ruine en est la preuve tragique.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, 8h20, 9h30, Marine Le Pen au micro de France Inter.
Aujourd'hui sur France Inter, Alpha Blondy dans Boomerang.
Augustin Trapenard.
Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ooh, ooh, Fanta Diallo.
L'Afrique, la musique et les forces de l'esprit avec Alpha Blondy.
Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter.
À 9h30, exceptionnellement.
Podcasté, téléchargé sur l'application Radio France.
On passe notre vie à préparer des instants. Préparer un voyage, préparer un examen. Se préparer à sortir. Préparer un dossier, préparer une naissance, se préparer à lui dire. Et si un instant, on pensait à préparer notre retraite ? Préfonds, la retraite, la prévoyance de la fonction publique. Préfonds au 30-25.
Merci d'écouter Inter, il est 8h21.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Face au 7-9.
Et oui, bienvenue dans ce 7-9 spécial d'entre-deux-tours que nous vous proposons aujourd'hui avec Léa Salamé. Une matinale grand format dans laquelle nous recevrons les deux finalistes de l'élection présidentielle pour un entretien sur leur programme avec des zooms sur les questions politiques, écologiques, économiques, internationales. Amis auditeurs, vous aurez largement la parole dans une vingtaine de minutes. Je compte sur vous donc au standard d'Inter 01 45 24 7000 et sur l'application mobile de France Inter.
Et c'est Marine Le Pen qui est ce matin notre invitée. Bonjour.